Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ils étaient près de 200 personnes à manifester lundi sous les fenêtres du Quai d'Orsay où siège le ministère des Affaires étrangères. Des parents et des familles d'adoption dont les enfants sont actuellement bloqués au Congo faute de visa pour entrer en France. Des enfants légalement adoptés donc, mais dont les dossiers sont en souffrance depuis de nombreuses années. Alors le refus du Quai d'Orsay d'accorder ces visas est une véritable douche froide pour les familles, d'autant que la décision est présentée comme définitive. La France soupçonne en effet des irrégularités dans les procédures, en clair. Il manquerait des garanties pour être certain que ces enfants sont bien adoptables et qu'ils n'ont pas fait l'objet de trafic. Alors pour autant, mettre fin aux adoptions avec des pays comme la République démocratique du Congo est-elle la meilleure solution pour les protéger? Depuis le scandale de l'Arche de Zoé en 2007, l'adoption à l'international souffre d'une mauvaise image. Mais ces affaires très médiatiques cachent une autre réalité. Les adoptions sont en chute libre, 815 dossiers en 2015 contre près de 5000 il y a 10 ans. Et ce n'est pas faute de parents candidats, mais l'adoption à l'international est de plus en plus considérée comme une solution de dernier recours. Alors vers la fin des adoptions à l'étranger. C'est le sujet dont nous discutons ce soir avec nos invités et ils sont quatre, à commencer par vous, Béatrice Biondi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'Agence française de l'adoption, l'AFA. C'est une agence publique qui dépend donc de deux ministères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Famille. Et pour résumer peut-être, l'AFA c'est un peu le service public de l'adoption, c'est une bonne définition?
Tout à fait, bon, tout à fait.
Ouais, en quelques mots, vous accompagnez donc, alors pas dans tous les pays, des familles.
Dans pas tous les pays, mais dans un grand nombre de pays, puisque nous sommes dans 35 pays, et nous accompagnons un grand nombre de familles, puisque nous sommes en lien, à un niveau ou à un autre de la procédure, mais nous sommes en lien avec 4000, 5000 familles françaises.
Alors pour discuter également ce soir, il est en duplex de France Bleu Loire-Océan à Nantes, Yves Dénécher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur à l'université d'Angers. Vous avez notamment publié « Des enfants venus de loin, histoire de l'adoption internationale en France ». C'était chez Armand Collin. En 2011, notre troisième invité est avec nous à Paris. Il s'agit de Nathalie Parent. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'association Enfance et Familles d'Adoption. C'est une fédération d'associations qui représente, elle, environ 9000 familles adoptives. Enfin, je me base sur ce qu'il y a sur votre site internet.
Oui, un petit peu moins... ces dernières années, aux alentours de 7500 environ.
Et l'activité principale de l'association, c'est l'accompagnement de ces familles et puis aussi faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics.
Tout à fait. Au niveau de nos associations départementales, 92 associations départementales, donc nous sommes sur toute la métropole et les dom-toms, enfin certains, et effectivement c'est l'accompagnement des familles avant, pendant, après.
Et puis notre dernier invité est au téléphone depuis Genève, Nigel Cantwell, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes ancien collaborateur de l'UNICEF, vous avez notamment participé à l'élaboration des conventions de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Alors peut-être pour commencer sur le cas que je citais en introduction, c'est ces 54 enfants qui sont bloqués actuellement à Kinshasa. Pourquoi est-ce que ces irrégularités n'ont pas été vues avant? Pourquoi est-ce qu'on se rend compte si tardivement qu'il y a un problème, que ces enfants ne sont peut-être pas tout à fait orphelins? Béatrice Biondi, comment on explique ça?
Écoutez, je crois que la République démocratique du Congo, c'est un pays compliqué. Personnellement, comme directrice générale de l'AFA, j'avais fait le choix de ne pas m'implanter en République démocratique du Congo parce que je pressentais qu'il y aurait des difficultés avec une autorité centrale qui est, je dirais, composée de membres de divers ministères et puis des enfants dont on ne sait pas trop qui ils sont, qui n'ont pas forcément d'identité, qui ne sont pas forcément adoptables. Alors évidemment, l'opérateur, il a pour mission, lorsqu'il se rend dans un pays comme celui-là, de rectifier le tir, en quelque sorte, hein, de se faire en sorte que on n'adopte que les enfants adoptables. Mais quand vous êtes dans un pays étranger, c'est extrêmement compliqué s'il n'y a pas une législation qui est favorable et qui vous permet de faire vous-même le tri. Alors, c'est une exposition à un danger. Aujourd'hui, ben, on assiste à cette difficulté d'enfants dont le jugement d'adoption a été prononcé par les autorités étrangères et qui, au regard de nos critères et des critères internationaux de la Convention de la Haye, ne sont pas des enfants adoptables.
Alors, Nickel Cantwell, vous vouliez réagir ?
Oui, je voudrais dire deux choses, hein, principalement. La première chose, c'est que le RDC n'est pas état partie de la Convention de la Haye, justement. Donc, c'est déjà une première chose qui rend toujours plus difficile les rapports entre un pays d'origine et un pays d'accueil. Et la deuxième chose, c'est comment ça s'est développé. L'adoption depuis la RDC, ça s'est développé il y a quelques années, il n'y avait pratiquement pas d'adoption. Et tout d'un coup, il y a eu un déferlement pendant les cinq dernières, pas les cinq, mais jusqu'en 2013, quand le pays lui-même a mis un veto sur les visas de sortie des enfants, mais ça s'est développé à une vitesse phénoménale de pratiquement 0 à 500, 600 adoptions par an.
Vous voulez dire le pays, pardon, a été débordé quelque part par les demandes ?
Mais complètement. Et le pays n'a pas demandé faire adopter ses enfants.
Néanmoins, il a quand même validé par des tribunaux des procédures d'adoption.
Mais ça, c'est autre chose. Il est sous pression. Les pays sont sous pression depuis l'extérieur pour faire adopter leurs enfants, parce qu'il y en a, comme vous avez bien dit, il y a une baisse d'adoption internationale. Ben, on cherche ailleurs. Et c'est pour ça que tout d'un coup, quand il n'y a pas d'adoption depuis le Congo, ben tout d'un coup, on se dit, ah tiens, on pourrait aller en Congo adopter des enfants. Mais c'est un déferlement d'agences qui vont là-bas, et puis tout d'un coup, ils font déborder la vase, et c'est prouvé tellement de fois dans l'histoire de l'adoption internationale, quand ce genre de choses arrive, inévitablement, il y a des pratiques illicites et inévitablement, pratiquement, il y a un moratoire sur ces adoptions.
Alors, du côté français, Nathalie Parent, comment est-ce qu'on explique que justement le tri, entre guillemets, en tout cas, on peut comprendre que dans certains pays, on ait du mal à obtenir tous les papiers, l'état civil, que l'état civil ait tout simplement été fait hein, pour les enfants qui sont nés. Quelle est la responsabilité côté français, justement, pour faire le tri avant de mettre en relation les enfants et les futurs parents, puisqu'aujourd'hui, c'était lundi, hein, des familles ont manifesté au Quai d'Orsay, des familles à qui on a déjà attribué les enfants, elles avaient des photos, des noms, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut intervenir avant le drame, quelque part ?
Je pense que pour intervenir avant le drame, il s'agit peut-être d'aller effectivement, dit Monsieur Cantwell, vérifier que dans le pays les enfants sont bien adoptables et que on y a bien les structures pour vérifier l'adoptabilité juridique des enfants. Il faut quand même pas oublier que l'adoption est avant tout une mesure de protection de l'enfance, la dernière. Mais qui est une mesure de protection de l'enfance, et il n'y a que les enfants qui doivent être adoptés, qui devraient l'être, et non pas ceux pour lesquels cette mesure n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on est face à un drame, puisqu'il y a d'un côté des enfants, effectivement, qui pour certains attendent leurs parents depuis plusieurs années, et puis des familles qui sont en attente, qui sont en excessive souffrance, et pour lesquelles c'est totalement incompréhensible. D'autant plus incompréhensible que ces familles sont passées par un organisme autorisé pour l'adoption. Donc, quelque part avec une accréditation, si vous voulez, et de la République démocratique du Congo et une habilitation des autorités françaises. Donc quelque part, comme s'il y avait une sorte de blanc-seing qui faisait que le fait de passer par un OA était forcément gage que tout allait se passer correctement.
Donc je crois que l'OA, pour préciser,
oui, voilà. Organisme autorisé pour l'adoption. Donc je crois que c'est d'autant plus incompréhensible pour ces familles que pour elles, voilà, tout était fait. Aujourd'hui, on est quand même face à un drame humain et où les parents et de l'autre côté les enfants, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces enfants ont été apparentés au fur et à mesure, y compris après le moratoire d'ailleurs. Néanmoins, ce sont des enfants qui sont pour la plupart grands, donc ce sont des enfants qui ont une compréhension de ce qui arrive, qui ont vu partir leurs petits copains, leurs petites copines les parents qui sont venus les chercher, et eux ils attendent, ils restent là, et c'est aussi totalement incompréhensible. Donc il y a toute la légalité et c'est vrai que là on est sur de l'humain et c'est incompréhensible et c'est, je ne sais pas comment on peut le résoudre.
Yves Denecher, le cas du Congo, il est assez, c'est un cas extrême ou quelque part inédit quelque part, où on a d'autres exemples dans l'histoire de cas comme ça où on arrive à une situation extrême où l'adoption est bloquée, on va dire comme dans ce cas-là au dernier moment.
Non, mais évidemment que dans l'histoire de l'adoption internationale, il y a eu d'autres cas de ce type. Je crois que la question de votre émission, elle est légitime, hein, vers une fin des adoptions à l'étranger, point d'interrogation, parce que vous avez donné des chiffres, parce que les effets vagues dont a parlé Monsieur Cantwell, c'est-à-dire ces effets d'éferlement et ces effets de pression sur des pays qui envoient ou qui peuvent envoyer des enfants à l'adoption internationale, posent effectivement cette question aujourd'hui. On a connu évidemment par le passé d'autres épisodes qui ressemblaient à celui-là. La pression extraordinaire à laquelle avait été soumise la Roumanie, par exemple, après sa révolution, à la fin 1989, pendant toute l'année 90 et début de l'année 91. Et donc on est dans un... Alors, Madame Parent a bien dit tout à l'heure, évidemment, qu'il s'agit d'une mesure de protection de l'enfance, mais l'adoption, c'est d'abord de donner une famille à un enfant qui n'en a pas. Or, un certain nombre de cas, si vous voulez, posent la question de l'adoptabilité de ces enfants. Du consentement clair, éclairé, précis de la mère de cet enfant, etc. Et il faut bien voir que là, ce qui s'est passé en RDC se passe aussi aujourd'hui dans d'autres pays. On a dit que la RDC ne faisait pas partie des pays La Haye. C'est vrai que cette convention qui date de 93 a permis de réguler un peu les choses au niveau international. Mais en même temps, elle fait en sorte qu'un certain nombre de pays qui ont besoin de se mettre au niveau des exigences de cette convention de La Haye, eh bien, sont obligés aussi de suspendre l'adoption pour un temps. Et j'allais dire, c'est tout cet environnement, tout ce contexte qui explique aujourd'hui ce déclin du nombre d'adoptions internationales.
Donc,
et on pourrait dire à la limite que peut-être que c'est une bonne nouvelle. Sitôt que j'ai dit ça, évidemment, je renvoie vers la question de l'intérêt de l'enfant. C'est qu'on sait bien aussi que dans tous les pays qui sont en train de se fermer à l'adoption internationale, tous les enfants ne trouvent pas des mesures de protection adéquates. Et comme on l'a déjà bien dit, l'adoption internationale est en dernier recours une mesure de protection de l'enfance qui est évidemment valable. Mais voyez, tout est une question, j'allais dire, de dosage et de régulation du phénomène.
Alors c'est précisément la question que j'allais vous poser. Est-ce que la décision qui a été prise du ministère des Affaires étrangères à compter du 1er janvier 2017 de cesser totalement les adoptions avec la République démocratique du Congo, est-ce que c'est pour vous la meilleure solution pour le moment pour ces enfants? Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que ces enfants vont rester dans l'orphelinat, vont pas forcément retrouver une famille, leur famille biologique si elle existe encore. Donc bonne décision ou pas pour les enfants, Nigel Cantwell?
Écoutez, à mon avis, c'est une bonne décision parce que justement, quand on met en place un moratoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement sérieux qui s'est passé. Et ça veut dire que, par exemple, les enfants qui sont, ou pas tous, mais beaucoup d'enfants qui sont dans ce qu'on appelle un orphelinat ne sont déjà pas orphelins. La preuve en est, c'est qu'on doit toujours, on doit demander le consentement aux parents, à la mère, dans tellement de cas. Ce sont pas des orphelins, ils sont parfois amenés dans des orphelinats, je dis entre guillemets, les orphelinats, simplement parce que il y a de l'argent qui peut se faire sur leur dos. Et malheureusement, c'est le cas, on le sait très bien. À La Haye, en ce moment, les États parties de la Convention de La Haye ont mis sur pied deux groupes de travail composés des membres, donc des États membres de La Haye, un sur les aspects financiers de l'adoption internationale qui suscite vraiment des soucis énormes, pour parler vulgairement, tout le fric qui circule à cet égard, et l'autre sur la prévention de pratiques illicites. Alors ce sont dans l'adoption internationale, alors ce sont les États parties à la Convention qui, malgré la Convention, reconnaissent très bien qu'il y a ces deux problèmes, les aspects financiers et les pratiques illicites. Et quand on a une indication claire et nette, comme c'était le cas au Congo, et comme a rappelé le monsieur, c'est pas un cas unique, bien sûr. La Roumanie, l'Éthiopie, on a un paquet de pays qui sont passés par là.
Donc, est-ce que le fait d'établir des moratoires sur les pays dont on soupçonne que des trafics pourraient être faits, ou en tout cas, ou de l'argent fait sur le dos des enfants, est-ce que, Béatrice Biondi, c'est la meilleure manière d'exercer une pression sur ces pays pour qu'ils se mettent en conformité, éventuellement pour la RDC, qu'ils signent la convention, ou en tout cas qu'ils améliorent leurs procédures sur la protection des enfants?
Oui, moi je pense que c'est même le seul moyen. La seule difficulté, c'est que ces pays, bien souvent, sont des pays qui n'ont pas les moyens de se mettre en phase avec les principes posés par la Convention de La Haye, et que effectivement un moratoire, c'est la fermeture d'un pays pour longtemps, et c'est donc il faut l'intégrer. Ce sont des centaines, voire des milliers d'enfants qui vont grandir dans les structures, dans les orphelinats, sans parents.
Nathalie Parent.
Oui, je ne peux que rejoindre tout ce qui a été dit. Mais il y a un moment, il faut effectivement prendre aussi les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus laisser les familles aller dans des pays pour lesquels on n'est pas certain que les enfants qui sont proposés sont juridiquement adoptables. Comme disait Monsieur de Necher, c'est effectivement donner une famille à un enfant qui n'en a pas et pas l'inverse, et que après ces enfants, quand ils arrivent, mais aussi ils grandissent, et je crois qu'on doit aussi les accompagner quand ils grandissent, ils demandent aussi leur histoire, ils demandent aussi ce qui est arrivé, pourquoi, comment, et je crois qu'il faut pouvoir leur répondre, et que c'est aussi de notre responsabilité de pouvoir faire en sorte que les adoptions soient les plus éthiques possibles, de façon à pouvoir aussi regarder nos enfants, et là je prends ma casquette hein, de présidente d'une association d'adoptés et de parents adoptifs, et le discours est bien le même, c'est-à-dire que pour pouvoir se grandir, pour pouvoir se construire correctement, il faut être sûr que cette adoption, c'était bien celle-ci, que c'était bien ça qu'il fallait, et c'est comme ça parce que je disais que tout à l'heure c'était une mesure de protection de l'enfance, c'est une mesure de protection de l'enfance mais qui crée un lien de filiation.
Yves Denecher, est-ce que l'adoption à l'international est quand même plus éthique, alors peut-être que dans les années 80, comment les choses ont-elles progressé tout de même?
Mais L'éthique, vous savez, c'est la définition de l'éthique, c'est à un moment donné et dans un contexte particulier, ce qui fait que on peut évidemment pas comparer les adoptions qui se font aujourd'hui dans le cadre, par exemple, de la Convention de l'Haye avec les adoptions qui ont eu lieu dans les années 70 ou même dans les années 80. C'est évident, puisque les, j'allais dire la société française notamment, puisque on est ici, n'accepterait plus aujourd'hui des choses qui ont été tolérées ou qui ont pu se passer il y a maintenant 30 ans ou 40 ans. Mais en même temps, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit être au centre, évidemment, de toutes les préoccupations autour de l'adoption internationale. Or, on sait bien que la définition de l'intérêt de l'enfant, elle est très compliquée, d'une civilisation à une autre, d'une ère culturelle à une autre ère culturelle. Et donc, parler d'éthique de l'adoption internationale, il y a beaucoup d'organisations qui, aujourd'hui, militent pour que l'adoption internationale soit la plus propre possible, j'allais presque dire la plus blanche possible, parce que l'adoption internationale, j'allais dire, n'est pas toute viciée. Hein, faut aussi tenir un discours un peu équilibré.
Oui, bien sûr.
Néanmoins, il y a beaucoup de zones effectivement de gris, et il faut faire en sorte que dans tous les pays qui sont les pays de départ, et ces pays de départ aujourd'hui, c'est eux qui ont la main sur les berceaux, hein, donc faut pas oublier que c'est aussi eux, quand ils ont les institutions, les administrations nécessaires, etc., c'est eux qui décident qui ils envoient à l'adoption internationale et vers quel pays ils les envoient. Et dans les pays d'accueil, il faut évidemment qu'il y ait cette idée très forte que l'adoption, c'est fait dans l'intérêt de l'enfant. À un moment, au début de l'émission, vous avez dit, voilà, il y a une grande restriction, c'est pas faute de candidats. C'est pas faute de candidats, le droit à l'adoption n'existe pas. Le droit à l'enfant n'existe pas. Et donc, je pense qu'il faut parfois renverser un peu la problématique de l'adoption internationale, la reprendre à partir des enfants dans les pays de départ. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants dans les pays de départ? Il y a des possibilités. On a beaucoup parlé d'orphelinat, qui est effectivement un terme impropre. Il y a beaucoup à faire pour aider ces pays à prendre en charge aussi leurs propres enfants.
Nickel Cantois, là, je rappelais tout à l'heure, vous avez participé à l'élaboration des conventions de la Haye, hein, sur la protection des enfants. Ces conventions, elles stipulent que l'adoption à l'international doit être le dernier recours et qu'avant cela, il faut encourager déjà lutter contre les causes des abandons et puis ensuite encourager l'adoption au niveau national. Pourquoi cet ordre-là? Pourquoi l'adoption à l'international passe en dernier recours?
Ben, pour plusieurs raisons. Première raison, évidemment, c'est un déracinement impressionnant de l'enfant, de sa société, de la société qu'il connaît. Donc, c'est vraiment, je dirais, une mesure extrême. Je ne dis pas que c'est une mesure qui n'est pas souhaitable, mais c'est quand même une mesure extrême. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait que c'est extrêmement difficile, comme l'a rappelé M. Dinicher. C'est difficile de s'entendre, si on veut, entre différents pays sur ce qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors moi, je préfère ne pas parler de l'intérêt supérieur, je préfère parler des droits fondamentaux de l'enfant. Et un des premiers droits, c'est évidemment de pouvoir vivre dans sa famille quand cela est possible. Et la famille a le droit d'avoir des soutiens pour pouvoir justement accepter, assumer les responsabilités qu'elle a envers l'enfant. Donc, on ne peut pas dire que si un enfant est dans un centre qui n'a pas de famille, il a vraiment, vraiment rien d'autre, on peut dire que l'adoption internationale peut être entrevue comme solution. Mais là, on est en train de parler trop souvent, évidemment pas toujours, mais trop souvent, d'enfants qui ont une famille et que cette famille ne veut pas abandonner cet enfant, il veut justement s'en occuper, et il pense que la meilleure façon de s'en occuper, c'est en fait de le laisser partir.
Alors, est-ce que depuis ces conventions, hein, qui ne sont pas signées par tous les pays, mais un certain nombre, 80, je crois, 98, merci. Est-ce que cela explique donc le fait de mettre l'accent sur des solutions d'abord nationales explique en partie qu'il y ait de moins en moins d'adoptions à l'international, Béatrice Biondi?
Oui, absolument, absolument. Un grand nombre de pays, enfin moi je dirige l'agence depuis un certain temps, hein, depuis presque 8 ans, et j'ai vu cette évolution au fil des années. Un grand nombre de pays qui ne connaissaient quasiment pas l'adoption nationale se sont mis à l'adoption nationale. On fait des formations, on fait de la publicité, se sont mis en phase donc de faire connaître l'adoption nationale. Et il y a une véritable évolution qu'on peut constater dans un grand nombre de pays.
Et puis un changement économique aussi avec l'apparition d'une classe moyenne dans certains pays, le Brésil notamment, la Russie.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. En plus, je dirais aussi qu'on a vu se modifier le profil des enfants qui étaient adoptés à l'international. Il y a encore une dizaine d'années, il y avait énormément de tout petits en bonne santé. Et le fait que les pays, comme par exemple le Brésil, qui est peut-être un cas assez emblématique, puisque c'était un des premiers pays d'arrivée des enfants, un pays d'origine, il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute une procédure qui a été mise en place par les Brésiliens, qu'il y a énormément d'adoptions nationales, et qu'en fin de compte, les enfants qui sont en besoin d'adoption internationale sont des enfants qu'on appelle, je dis entre guillemets parce que j'aime pas ça, mais je sais pas comment dire autrement,
difficilement
adoptables, à besoins spécifiques, enfin voilà, qui sont des enfants grands, des enfants en fratrie, voire en fratrie nombreuse, 3, 4, 5, ou des enfants qui sont porteurs d'une maladie ou d'un handicap. Et on voit bien que ce sont ces enfants-là aujourd'hui qui sont en besoin d'avoir de l'adoption internationale, parce que les enfants, des autres enfants, ont une solution dans leur propre pays, soit effectivement une aide qui leur permet de rester dans leur famille biologique ou dans la famille élargie, ou qui sont adoptés en national. Et il y a donc, ce sont ces enfants-là qui sont en besoin d'adoption internationale. Et de l'autre côté, ce dont on se rencontre aussi, c'est que beaucoup de postulant à l'adoption ne sont pas forcément dans des projets pour ces enfants-là. Donc on a aussi aujourd'hui en France une inadéquation entre les enfants qui sont en besoin d'adoption, en tout cas les pays à l'international confient à l'adoption internationale, et de l'autre côté les projets des parents, ou même pour certains la connaissance des postulants sur qui sont ces enfants, quels sont leurs besoins, et est-ce qu'on a un projet qui sont en capacité de leur répondre. Donc on a cette inadéquation qui est problématique. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est capable d'adopter un enfant grand, un enfant handicapé ou malade ou une fratrie, mais en tout état de cause, il n'y a pas forcément partout une information poussée, donnée aux personnes qui veulent se lancer dans l'adoption, de qui sont les enfants et quels sont leurs besoins.
Et qui imaginent adopter un petit bébé en bonne santé.
Ce qui est tout à fait légitime, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir ce projet-là est légitime. Néanmoins, mis à part en France où effectivement un certain nombre d'enfants correspondent à ça, à un enfant petit en bonne santé, à l'international, il y a de moins en moins d'enfants qui ont ce besoin-là à l'international, et donc il y a une inadéquation entre d'un côté les projets et de l'autre côté les enfants.
Yves Denecher, les adoptions à l'international sont en baisse, et le phénomène, on va dire, est inexorable.
Inexorable. Je suis historien, hein. J'ai déjà du mal à prévoir le passé, donc oui, je me risque pas sur l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les pays de départ, se pose aussi la question de l'opinion publique. Là, on parle d'enfants à besoins spécifiques. Si on prend par exemple un pays comme la Russie, c'est compliqué de faire admettre à l'opinion publique russe que la Russie veut redevenir une grande puissance, etc. Enfin, il suffit de regarder l'actualité. Mais qu'en même temps, la Russie n'est pas capable de prendre en charge un certain nombre d'enfants handicapés, etc. Donc, il y a aussi des opinions publiques, des états de départ qu'il faut prendre en considération parce qu'ils jouent vraiment un rôle tout à fait important. Alors, et puis, ça pose d'autres questions quand on parle des enfants à besoins spécifiques ou difficilement adoptables. Par exemple, les enfants grands. Ben, la question fondamentale du déracinement qu'a posé M. Cantwell se pose évidemment avec encore plus d'acuité pour des enfants grands. Donc, en quelque sorte, vous voyez, on revient sur des fondamentaux. Et puis, on a parlé de projets des candidats, des postulants à l'adoption. Ben, c'est vrai qu'en ce moment, on se rend compte qu'il y a une certaine pression qui redevient forte sur l'adoption nationale. Parce que justement, pour les postulants à l'adoption, ben, l'adoption internationale est en train évidemment de se restreindre, de se réduire considérablement. Et il y a sans doute un report vers l'adoption nationale qui va devoir être géré aussi.
Nigel Cantwell, comment est-ce qu'on gère la forte pression de la demande, justement ?
Ben, justement, je voulais intervenir sur ce mot, le projet. C'est problématique, ce projet. Je sais que ça fait partie du langage, évidemment, de l'adoption, mais je trouve que c'est malheureux, parce que là on a une situation où des couples ou des personnes souhaitent adopter, ils font un projet d'adoption, mais ce n'est pas ça l'adoption pour moi. C'est vraiment que ces personnes devraient faire une offre d'adopter et pas un projet d'adoption. Parce que là, comme il a été rappelé, il n'y a pas de droit d'adopter. Donc, on fait une offre. On dit, voilà, si quelqu'un a besoin de moi, ben voilà, je suis prêt à répondre à cette demande. Mais on ne peut pas gérer la demande si on fait croire que, ben voilà, on va... vous avez un projet, on va essayer de trouver de répondre.
Alors, Nigel Cantwell, je vais laisser répondre Béatrice Biondi, ouais. Et Nathalie Baran qui secouaient la tête en vous entendant. Béatrice Biondi.
Oui, moi je veux pas dire je m'inscris en faux, mais presque. Les familles, on peut dire qu'elles ont un projet d'adoption. Au démarrage, c'est vrai que la plupart des familles ont le projet d'adopter un enfant petit et en bonne santé. Devant la réalité de l'adoption internationale aujourd'hui, les familles sont conduites à, le cas échéant, faire évoluer leur projet. Faire évoluer un projet, ça ne veut pas dire rester chez soi et dire à son conjoint « écoute, on va augmenter d'un an ou deux ». Non, ça veut dire bénéficier d'une préparation et d'un vrai accompagnement par l'opérateur. Et c'est ce que l'Agence française de l'adoption fait auprès de ses familles. Et elle le fait et elle ne masque pas la réalité des choses, de manière à ce que une famille ne se trouve pas dans une situation d'échec à l'adoption avec un enfant qui arriverait et qu'elle ne se sentirait pas en mesure de porter comme on doit porter son enfant jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui, donc, c'est une vraie préparation qu'il faut faire avec les familles et, le cas échéant, les aider à renoncer à leur projet d'adoption, en leur faisant comprendre qu'elles ne seront pas heureuses, elles ne feront pas le bonheur de l'enfant et elles ne font pas leur bonheur en acceptant un enfant qui ne correspond pas à ce qu'elles rêvent. N'a-t-on pas le droit de dire qu'une famille a... bon, on parle de projet, mais c'est un rêve. C'est le rêve d'avoir un enfant. Hein, ce ne sont pas des adoptions humanitaires. Une famille, elle peut rêver d'avoir un enfant.
Nathalie Parent.
Oui, oui, tout à fait. Et puis je crois qu'il faut, quand on parle de projet d'adoption, c'est aussi pouvoir se dire, mais de quel enfant je suis capable d'être parent. Je crois que c'est une question et une vraie question, c'est-à-dire que on n'est pas sur je suis capable d'être parent de n'importe quel enfant dans n'importe quelle condition. Ce n'est pas vrai. On est capable, on peut se sentir parent de certains enfants parce que on peut, c'est plus se dire je ne suis pas capable d'être parent de tel enfant. Où je rejoins ce que dit Monsieur Canduel, où il y a peut-être effectivement quelque chose à réfléchir, c'est au lieu de nous, pays d'accueil, aller dans les pays d'origine déposer des dossiers comme ça se fait aujourd'hui, il y a déjà pour certains pays, c'est comme ça que cela se fait, c'est-à-dire que c'est le pays qui dit, voilà, je cherche, j'ai tel enfant et je cherche tel profil parental pour répondre aux besoins de cet enfant. C'est ce qu'on demande en France, c'est-à-dire en disant qu'il faut faire un bilan pour savoir si cet enfant... pour les enfants pupilles de l'État, donc juridiquement adoptables, hein, on est d'accord, mais pour dire est-ce que cet enfant dans sa... est déjà adoptable dans sa tête, et s'il est adoptable dans sa tête, en fonction de ce qu'il est et de ses besoins, quel est le profil parental qu'il faut pour pouvoir répondre au mieux de ses besoins, au moment où on le fait, ce projet, bien évidemment, c'est un moment T. Mais c'est peut-être aussi que les pays d'origine en adoption internationale, et Béatrice le sait puisqu'elle travaille comme ça en, sur un certain nombre de pays, ce sont les pays qui interrogent les pays d'accueil en disant, nous avons un enfant qui est en besoin d'adoption, il a besoin de parents qui peuvent répondre à tel et tel besoin, donc il nous faut des parents qui aient tel ou tel profil. C'est là-dedans où on a absolument besoin, à mon sens, d'avoir un projet, c'est-à-dire de pouvoir se dire, eh oui, je suis capable d'avoir un enfant comme ci, comme ça, et pas autrement. Voilà. Donc bien le délimiter.
Yves Dénécher, est-ce que dans la réalité, les pays fonctionnent de la manière dont vient de le décrire Nathalie Parent, mais peut-être de manière idéale, mais est-ce que dans la réalité, face à une diminution d'enfants adoptables et une offre ou une demande de parents qui reste importante, est-ce qu'il n'y a pas des pressions qui peuvent s'exercer, peut-être aussi des phénomènes de chantage quelque part, avec des pays qui vont négocier certaines coopérations, certaines aides, peut-être en échange d'un accès plus facilité à l'adoption. Est-ce que ce phénomène existe déjà, Yves Dénécher ?
Au niveau macro, si vous voulez, c'est-à-dire d'État à État, il est vrai que la situation varie beaucoup d'un pays à un autre. Pour la France, si vous voulez, a l'ambition d'avoir une politique étrangère à portée universelle, en quelque sorte. Donc, pour la France, pour le ministère des Affaires étrangères, c'est très clair que gérer l'adoption internationale, c'est pas simple. C'est pas simple parce que l'État français ne veut pas faire, ne veut pas utiliser, en quelque sorte, l'adoption internationale comme une partie intégrante de sa diplomatie. Donc ça, c'est au niveau des États.
Mais
après, ce qu'on a entendu... Bien sûr. Mais après ce qu'on a entendu sur, effectivement, la question de la préparation, de l'accompagnement, du projet, etc., aujourd'hui, il y a encore un quart des adoptions internationales qui se font à l'individuel, c'est-à-dire sans passer par un organisme agréé pour l'adoption, sans passer par l'AFA. Et vous voyez bien que tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'accompagnement, sur la préparation, sur éventuellement... la possibilité de faire comprendre à des postulants à l'adoption qu'il vaut peut-être mieux renoncer, etc., etc. On ne trouve pas tout ça avec une adoption individuelle et je pense que ça, c'est une vraie question qui est sur la table. Et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a une petite ambiguïté aussi sur finalement la finalité de l'adoption parce que on a parlé de rêves pour des postulants, etc. Aujourd'hui, en fait, et Madame Biondi a dit à juste titre qu'on n'est pas dans de l'adoption humanitaire, mais quelque part, on y arrive quand même, on y revient quand même. Ça veut dire que oui, les enfants qui arrivent, ce sont des enfants qui ont besoin de prise en charge très spécifique. Et parce qu'ils ne peuvent plus être pris en charge dans leur pays. Et ça, vraiment, ça doit interroger tous les acteurs de l'adoption internationale sur la manière de faire différemment les choses, de faire mieux les choses. Alors, c'est facile à dire, hein. Mais en tout cas, de prendre en compte tous ces éléments-là désormais.
Il nous reste une toute petite minute. Nigel Cantwell, vous vouliez réagir, ce sera la dernière réaction rapidement, s'il vous plaît.
Écoutez, je voulais expliquer que je suis entièrement d'accord avec mesdames, ce qu'elles ont dit. Mais moi, je trouve que justement, il ne faut pas utiliser le mot projet, il faut utiliser autre chose. Mais je voudrais aussi dire que les adoptions individuelles sont interdites par la plupart des pays d'accueil. Il faudrait absolument que la France interdise ces adoptions individuelles qui sont extrêmement dangereuses et sont complètement hors cadre point de vue laïque.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle Béatrice Bianti, directrice générale de l'Agence française de l'adoption. Merci à vous, Nathalie Parent, présidente de l'association Enfance et Famille d'adoption. Merci à vous, Nigel Cantwell, ancien collaborateur de l'UNICEF. Vous étiez au téléphone depuis Genève. Et merci à Yves Dénécher, historien. Je rappelle votre ouvrage « Des enfants venus de loin, histoire de l'adoption internationale en France ». Et c'était paru chez Armand Collin en 2011. J'en profite pour saluer les équipes de France Bleu Loire-Océan à Nantes qui vous ont accueilli ce soir. Demain, l'esprit de Schengen est-il mort? Autrement dit, jusqu'où peut-on déroger aux règles de libre circulation en Europe? Du grain à moudre, la réécoute, le podcast, les commentaires, c'est sur franceculture.fr. Une émission préparée par Céline Leclerc, Cyril Baer, Antoine Tricot, Philippine Lebray et Isulte Sicard. Réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Jean-Frédéric